Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui en ont. Tout d'abord dans la Bible hébraïque, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, nous lirons quelques versets, les versets 1 et 2 et les versets 6 à 9. Ma prédication, comme cela a déjà été mentionné par notre frère, portera donc sur cette toute première partie du Sermon sur la montagne, l'Église, celle de la terre et lumière du monde. Et comme vous le savez déjà sans doute, le thème de l'Église ou le peuple de Dieu, lumière des nations, est récurrent tout au long de l'Écriture sainte, tout au long de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à entendre, à écouter tout d'abord dans le livre du Deutéronome ce qui est dit ici concernant Israël, le peuple d'Israël, le peuple élu, et qui nous concerne aussi aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Maintenant, Israël, écoute, pour les mettre en pratique, les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Et au verset 6, vous les observerez, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. » Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, Ésaïe, c'est vers la fin du livre de ce grand prophète. Nous lirons les versets 1 à 3 et les versets 19 à 20. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Et au verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons de nouveau ce thème de la lumière, l'Église, lumière des nations. Au chapitre 21, les versets 9 à 11. Dans ce chapitre, il est question des nouveaux cieux et de la nouvelle terre que préfigure précisément l'Église, peuple de Dieu, ici-bas. Nous lisons donc les versets 9 à 11 et les versets 22 à 25. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et au verset 22 à 25, « Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car là, il n'y aura pas de nuit. » Et enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, il nous a été lu tout à l'heure déjà quelques extraits de ce sermon sur la montagne. Eh bien, le texte de ma prédication portera sur les versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, le texte de ma prédication de ce matin nous interpelle sur ce qui constitue vraiment la vocation de l'Église et du chrétien dans le monde. Être sel de la terre et lumière du monde. Ce texte se trouve au début du sermon sur la montagne, sermon dans lequel notre Seigneur, au commencement de son ministère, enseigne ses disciples sur leur nouvelle manière d'être et de penser, sur leur nouvelle règle de vie. Nulle part ailleurs dans la Bible, nous trouvons un exposé aussi complet concernant les exigences du royaume de Dieu. Ce que le Christ attend de nous, son peuple, un peuple saint appelé à se distinguer du monde. Vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Vous êtes, vous, chrétiens, la saine influence de l'Évangile dans le monde, l'influence bénéfique de l'Évangile sur cette terre, influence sans laquelle l'humanité ne manquerait pas de sombrer dans les ténèbres, dans le chaos. Alors, trois vérités ressortent plus particulièrement de notre texte. Trois enseignements du Seigneur qui nous rappellent notre vocation d'Église et de chrétien dans le monde. La première de ces vérités, c'est que l'Église n'est pas le monde et que le monde n'est pas l'Église. Il y a une différence fondamentale entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre l'Église et le monde. Et c'est à ce titre que les chrétiens, malgré et au-delà de leurs imperfections, sont dits être sel de la terre et lumière du monde. La deuxième vérité sur laquelle j'entends attirer votre attention ce matin, c'est que l'Église, qui n'est pas du monde, est et doit être pour le monde et non pas contre lui. La différence fondamentale entre le chrétien et le non-chrétien implique que nous prenions très au sérieux la responsabilité qui est la nôtre d'être ensemble en Église, celle de la terre et lumière du monde. Celle et lumière pour le monde. Troisième vérité, notre responsabilité de chrétien comporte deux facettes. Être celle de la terre d'une part et être la lumière du monde d'autre part. Autrement dit, l'Église et les chrétiens ont pour mission, pour responsabilité, d'une part d'empêcher la décomposition du monde, tout en lui donnant saveur et goût, ça c'est les propriétés essentielles du sel, et d'autre part de chasser les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur, de la haine, en faisant rayonner la lumière resplendissante de l'Évangile partout dans le monde. Et ce, dans tous les domaines de la vie. Premier point, donc, il existe une différence fondamentale entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre l'Église et le monde. Remarquez en effet que Jésus, dans le sermon sur la montagne, ne s'adresse pas à la foule en général, mais bien à ses disciples. En effet, nous lisons au verset 1 et 2, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. L'enseignement de Jésus à propos du sel et de la lumière s'adresse donc bien ici aux disciples, à ceux qui ont accepté de le suivre et de placer leur confiance en lui. Jésus ne dit pas qu'il est donné à tout homme indistinctement, même si le message de l'Évangile s'adresse à tous, d'être le sel de la terre et la lumière du monde, mais bien aux chrétiens. Selon ce qui est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ est le sel de la terre, il est la véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. Les chrétiens, par association au Christ, deviennent à leur tour sel de la terre et lumière du monde, en étant ses vivants témoins. Alors, quel contraste avec la façon courante de penser de bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être un homme bon, un homme honnête et sans histoire, même si cela est déjà en soi une bonne chose, pour être véritablement ce que Jésus entend ici lorsqu'il dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Encore faut-il croire en Jésus-Christ et marcher dans ses voies. Être sel de la terre découle en effet de notre statut en Christ, de notre relation avec Jésus-Christ. C'est la conséquence de notre union à Jésus-Christ par la foi. Nous ne sommes pas lumière de la terre, celle de la terre et lumière du monde par nous-mêmes, en nous-mêmes, mais du fait de notre relation à Jésus-Christ qui, lui, est la véritable lumière. Être celle de la terre, c'est croire donc en Jésus-Christ et c'est marcher dans ses voies. Voilà pourquoi Jésus dit en s'adressant à ses disciples, « C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous la lumière du monde. » Ainsi donc, l'Église n'est pas le monde et le monde n'est pas l'Église. L'Église est dans le monde, certes, mais elle n'est pas du monde. Et c'est précisément parce que l'Église n'est pas du monde qu'elle peut être et qu'elle est véritablement celle de la terre et lumière du monde. Telle est donc, frères et sœurs, la première vérité, le premier enseignement de notre Seigneur qui ressort de notre texte. La deuxième vérité, c'est que l'Église, sans être du monde, c'est-à-dire sans trouver son origine, son identité dans ce monde, l'Église, sans être du monde, puisqu'elle est d'en haut, elle n'existe que du fait de sa relation à Jésus-Christ, n'en demeure pas moins pour le monde et non pas contre lui. Vous remarquerez en effet qu'il n'est pas dit ici « Vous êtes le sel de l'Église » ou encore « C'est vous la lumière de l'Église » ou « Dans l'Église » mais bien « C'est vous le sel de la terre et la lumière du monde ». Il est question ici de la terre et du monde, autrement dit de l'univers et de l'humanité tout entière. Ce monde pour lequel Dieu, nous dit l'Écriture, a donné son Fils, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nous connaissons bien ce verset, Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour et il aime sa création malgré le péché et la désobéissance de l'homme. Dieu n'a pas abandonné le monde à sa condition, mais en Jésus-Christ et à travers l'Église et les chrétiens, c'est la réconciliation de toutes choses en Christ qui est visée. Colossiens chapitre 1, verset 19 et suivant, il est écrit « En effet, car il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus-Christ toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Vous voyez qu'ici aussi, dans cette parole de l'apôtre, il est question de ce qui est sur la terre et de ce qui est dans les cieux, la portée du salut, la portée de la bonne nouvelle de l'Évangile concerne tout homme et toute la création. Ainsi, être celle de la terre, celle pour la terre et lumière pour le monde, tel est bien, frères et sœurs, la vocation qui nous est adressée. Être celle de la terre et lumière du monde est à la fois un privilège et une responsabilité. C'est une grave responsabilité que le texte fait ressortir en disant « Vous, vous êtes le sel de la terre ». Il y a là une exhortation à être vraiment ce que nous sommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Non pas « Devenez le sel de la terre », non pas « Efforcez-vous d'être la lumière du monde », mais bien « C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». C'est là un fait, que nous le voulions ou non, que nous en ayons conscience ou non. Nous sommes, nous chrétiens, par-delà nos imperfections nombreuses, et nous les connaissons, les imperfections de l'Église tout au long de son histoire, et nos propres manquements, nos doutes, par-delà nos errements, nous sommes, nous, disciples de Jésus-Christ, sel de la terre et lumière du monde. Et nous avons de ce fait un devoir de rayonnement dans le monde. Nous avons le devoir de maintenir la vie, le bien, la beauté dans ce monde torturé où les ténèbres sévissent encore et où le mal et le péché sèment toujours son long cortège de destruction et de mort, comme les événements de ces derniers temps nous le montrent, hélas. Seulement, voilà, le Christ nous met en garde. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Et encore, une ville située sur une hauteur ne peut pas être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur un support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi donc, poursuit le Christ, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Nous avons un devoir de rayonnement dans le monde. Mais si le sel devient fade, mais si l'Église oublie sa vocation, Mais si l'Église met sous le boisseau de ses traditions, de ses institutions, de son discours, la lumière de l'Évangile, si l'Église et les chrétiens acceptent de se compromettre avec le monde, s'ils adoptent les manières de faire de ceux qui sont autour d'eux, alors ils perdent leur raison d'être. Nous pourrions, hélas, donner ici bien des exemples où, sur des questions notamment éthiques, concernant la famille, concernant le mariage, concernant l'homosexualité, ou encore sur les problèmes économiques et politiques, la question de la pauvreté ou de l'immigration, ou encore la question de la guerre, l'Église s'est trop souvent tue, ou bien parfois même s'est mise à la remorque, à la traîne de l'idéologie ambiante, au lieu de remplir avec fidélité sa vocation prophétique et de rappeler sans ambiguïté la volonté de Dieu pour le bien de tous. À l'Église de la Odyssée, qui s'était laissée emportée par le courant du compromis, Jésus prononce cette parole terrifiante. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Apocalypse 3, verset 15 et suivant. Lorsque les chrétiens ne se distinguent plus des non-chrétiens, alors ils deviennent inutiles, comme le sel qui a perdu sa saveur, comme la lampe que l'on a mise sous le boisseau. En revanche, c'est lorsque l'Église est vraiment l'Église, c'est-à-dire un peuple saint, le peuple de Dieu, dans la fidélité à la loi de Dieu, que son influence dans le monde est la plus forte et qu'elle est alors véritablement sel et lumière. Comme l'a dit un théologien récent, les chrétiens n'exerceront pas leur influence dans la société en s'identifiant au monde, mais en s'en distinguant. Et encore, lorsque l'Église est absolument différente du monde, c'est alors qu'invariablement elle attire du monde, et c'est ainsi que l'Évangile est glorifié. C'est alors que le monde est rendu attentif à son message, bien qu'au départ il puisse le haïr. Et cela nous conduit à notre troisième et dernier point, ce devoir de rayonnement de l'Église et du chrétien a deux facettes, être sel de la terre et lumière du monde. Autrement dit, empêcher la décomposition du monde d'une part, faire rayonner la lumière de l'Évangile dans tous les domaines de la vie, d'autre part. Songez, frères et sœurs, que le sel, dans l'Antiquité et à l'époque de Jésus, était fort prisé. Le sel et la lumière étaient considérés à l'époque du Nouveau Testament comme deux réalités dont personne ne pouvait se passer. C'est un peu comme aujourd'hui l'électricité. Comment vivrions-nous si il n'y avait plus d'électricité? Eh bien, à l'époque, les deux réalités qui étaient considérées comme étant vraiment fondamentales, dont personne ne pouvait se passer, c'était le sel et la lumière. C'est ainsi que le naturaliste romain Pline disait « Rien n'est plus utile que le sel et la lumière du soleil ». Rien n'est plus utile que le sel et la lumière du soleil. Ainsi, on peut dire, en un sens, que rien n'est plus utile au monde que l'Église et les chrétiens. L'Église et les chrétiens, malgré leurs imperfections, constituent une bénédiction pour le monde, car sans eux, sans cette présence vivante de Dieu au milieu des hommes, dont ils témoignent, la vie serait bien fade, sans saveur et sans goût. Il est permis de croire que sans l'Église et les chrétiens, notre société elle-même ne manquerait pas de sombrer dans le chaos, dans le désespoir le plus sombre, dans le découragement, comme c'est, hélas, trop souvent le cas aujourd'hui dans le monde. Le sel, comme vous le savez, a la propriété non seulement de donner de la saveur aux aliments, mais aussi de les conserver, surtout à l'époque où il n'y avait pas de congélateur ou de réfrigérateur. Le sel empêche et empêchait les aliments de se décomposer. Ainsi en est-il de l'Église. Les chrétiens font office dans la société de conservateurs, sans être nécessairement pour autant eux-mêmes des conservateurs, ce qui serait plutôt péjoratif, de désinfectants, si vous voulez, de remèdes, empêchant celle-ci de se décomposer. Et c'est là un aspect de notre vocation en tant qu'Église. Empêcher la pourriture du péché, du mal, de l'erreur, de l'incrédulité, de la haine, la moisissure de la haine, de l'injustice, de l'orgueil et de tout ce qui s'oppose au règne de Dieu de se répandre dans le monde et dans la société. Comment cela, me direz-vous ? Eh bien, en vivant et en proclamant fidèlement les exigences de la loi de Dieu sans édulcorer le message et sans accommoder notre témoignage aux erreurs de notre temps. Être des témoins fidèles du Christ vainqueur qui a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Mais l'Église et les chrétiens ne sont pas seulement sel, ils sont aussi lumière. Vous êtes la lumière du monde. La lumière dans la Bible est le symbole de la vérité. Ce sont deux termes quasiment synonymes, la lumière et la vérité. La vérité, c'est ce qui éclaire. Et voilà pourquoi il est dit que Jésus-Christ est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus qui a rendu témoignage de lui-même en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit d'autre part « Je suis la lumière du monde ». Donc la lumière est le symbole de la vérité. De même, l'apôtre Paul écrit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Par le témoignage que chacune et chacun nous rendons à Jésus-Christ, par le culte que nous offrons à Dieu, par l'enseignement qu'elle dispense au monde, l'Église est ainsi colonne et appui de la vérité qui est Jésus-Christ. Engagement social et politique dans la société et proclamation de l'Évangile pour le salut des hommes vont de pair et constituent les deux facettes de la responsabilité et de la vocation du chrétien dans ce monde. Ces deux responsabilités incombent pareillement à l'Église. Que serait l'Église si elle n'était que sel ou que lumière ? Que servirait-il de dénoncer le mal ? Ça, c'est le sel de la parole de Dieu, de la justice de Dieu. Si nous n'avions rien à proposer à la place, à quoi bon dénoncer l'erreur ? À quoi bon dénoncer et montrer du doigt le péché de notre société si le message de la grâce et du salut gratuit en Jésus-Christ ne suit pas? Que servirait-il aux chrétiens de s'engager dans la société, dans des œuvres humanitaires, dans le débat politique, si cela n'était pas accompagné par la proclamation du règne de Dieu en Christ, par un appel pressant à la conversion, à la repentance et à la foi? Et pareillement, que servirait-il d'annoncer Jésus-Christ sans remettre en question les structures injustes de notre monde, sans apporter de réponse aux maux dont souffre la société, sans un engagement actif auprès des plus faibles, des plus démunis, des plus petits. Mais l'Église et les chrétiens sont à la fois sel et lumière. Alors, chers amis, soyons, oui, soyons véritablement dans ce monde torturé, la lumière bienfaisante de l'Évangile, le sel de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. C'est en tant qu'Église et en tant que communauté vivante et fraternelle que le Seigneur nous confie cette mission. Et c'est ensemble, par-delà nos différences, nos imperfections, mais dans la proclamation commune de la vérité qu'il nous est permis d'espérer pour l'avenir de notre monde. Alors que le Seigneur nous aide chacune et chacun à remplir avec fidélité, avec zèle, avec joie, avec confiance cette vocation qu'il nous adresse jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.